Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Je vais refaire un petit bond par rapport au psaume de la semaine dernière. Et nous allons lire le psaume 100. Un psaume de louange, psaume 100. Et voici donc la parole de Dieu, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et c'est la parole de Dieu. Dans son commentaire sur les psaumes, Charles Spurgeon a saisi l'expérience de beaucoup de croyants quand il écrit « Rien ne peut être plus sublime de ce côté du ciel que le chant de ce noble psaume par une grande assemblée. » Ce psaume est le seul psaume qui est explicitement destiné à la louange, comme l'indique le titre « Psaume de louange ». Cela ne nie pas que beaucoup d'autres psaumes sont centrés sur l'action de grâce et la louange adressée à Dieu. Le psaume 118, par exemple, répète cette phrase célèbre « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Mais on peut voir dans la structure de ce petit psaume le modèle classique d'un psaume de louange. Dans la première strophe, les versets 1 et 2, il y a la convocation pour adresser au peuple de Dieu de venir avec la louange. La deuxième strophe, le verset 3, fournit la base de notre remerciement à Dieu en tant que notre Créateur et Rédempteur. La troisième strophe, le verset 4, renouvelle l'invitation, l'appel à se rassembler et à louer, à remercier Dieu. Et la quatrième strophe, verset 5, exalte trois caractéristiques spécialement adorables de Dieu. Sa bonté, son amour et sa fidélité. Et on va diviser le message en trois grands points. Tout d'abord, les impératifs de l'adoration. Comme j'ai dit, la première strophe convoque le peuple de Dieu à venir louer Dieu, à venir dans la présence de Dieu pour le louer. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Cet impératif appelle les croyants à une sorte d'exubérance dans l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Nous devrions être excités à l'idée de venir au culte le dimanche matin, comme les Israélites étaient excités quand ils se présentaient devant le temple du Seigneur. C'est un privilège d'avoir un accès dans la présence de Dieu, d'avoir la liberté de venir devant lui, de recevoir les bienfaits et tout ce qu'il nous donne, le privilège de la prière, le privilège de la prédication de la parole et le privilège de ce repas que le Seigneur a institué, que nous pouvons partager comme un mémorial. L'idée de pousser des cris suggère un service de couronnement d'un nouveau roi, ou alors, pour utiliser des termes un peu plus républicains, pousser des cris suggère l'acclamation des foules quand un nouveau président est élu. Et c'est avec ce même état d'esprit, cette même anticipation que le croyant devrait venir devant le Seigneur avec des cris de joie, avec pour ainsi dire, des applaudissements dans son cœur. En particulier, quand l'Évangile est annoncé, quand l'Évangile est expliqué, quand l'Évangile est appliqué, il devrait y avoir un accueil joyeux de la part du peuple de Dieu, parce que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, dans le Fils de Dieu. Nous sommes acceptés tels que nous sommes, avec nos imperfections, parce que quand Christ, nos péchés sont pardonnés, la colère de Dieu a été déversée sur son Fils et elle n'est plus sur nous, de sorte que nous pouvons dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment ne pas venir avec joie devant le Seigneur dans la louange? Un commentateur écrit, si Dieu est roi, notre adoration peut-elle être autre chose que joyeuse? Débarrassez-vous des masques et des mélodies funèbres. La joie, l'allégresse, le chant doivent accompagner l'adoration. Mais en plus de venir devant Dieu avec des cris de joie, le verset 2 nous appelle à servir l'Éternel avec joie. Ce deuxième impératif de servir a le sens de participer au culte public. C'est plus visible en anglais. On parle de worship service, de service d'adoration. Ce deuxième impératif est parallèle avec ce qui suit, de venir dans sa présence. Cela nous rappelle que bien que nos cultes de dimanche matin sont loin d'être la totalité de la vie chrétienne, notre culte est néanmoins un élément important de notre service au Seigneur. Trop de chrétiens aujourd'hui considèrent le culte d'adoration comme une simple option basée sur la convenance, quelque chose à intégrer dans notre calendrier avec d'autres activités concurrentes. Mais il est important de réaliser que nous sommes appelés à venir ensemble. C'est un service important pour Dieu, pour l'Église, mais pour chaque croyant. Il est difficile de trouver un croyant qui grandit dans la foi si ce croyant n'est pas régulièrement uni avec d'autres dans le service d'adoration pour adorer ensemble le Seigneur. Mais ceci dit, il est également vrai que notre service à Dieu s'étend au-delà de venir ensemble au culte pour le louer. L'apôtre Paul reprend le langage du psalmiste, il l'applique à une vie qui est vécue pour Dieu. Quand il passe de la doctrine à l'application de cette doctrine dans la lettre aux Romains, il commence par une exhortation à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est Romains 12, verset 1. Il y a le service, il y a venir dans la présence de Dieu, mais ensuite le troisième impératif, à venir chanter devant le Seigneur. Le verset 2, notre version dit « Venez avec allégresse en sa présence », mais on peut aussi très bien le traduire « Entrez en sa présence avec des chants joyeux ». Le terme « allégresse » reprend cette idée. Et ceux d'entre nous qui ont grandi dans des églises dites évangéliques, on ne peut pas toujours réaliser que le chant joyeux est un élément spécial du culte chrétien. Les religions du monde utilisent des chants répétitifs. Certaines vont offrir une musique qui est uniquement interprétée par des chorales ou par des membres du clergé qui sont spécialement nommés pour cette tâche. Alors que les religions sans Christ présentent une forme sombre d'adoration, les véritables croyants chantent ensemble à haute voix, de tout leur cœur. Le commentateur écrit, dit « Là où le modernisme et le libéralisme se sont installés, les chants deviennent une partie du service religieux où l'orgue joue bruyamment. Une chorale professionnelle chante sans cœur. De faibles murmures surgissent des parties du bâtiment où la vie spirituelle peine à s'exprimer malgré les circonstances. Mais partout où il y a la connaissance des péchés pardonnés, partout où le Seigneur Jésus-Christ est exalté dans sa grâce et sa puissance dans le salut, alors le chant prend une note de triomphe. Le verset 2 nous dit non seulement de chanter devant le Seigneur avec soi, mais aussi de chanter ensemble. Tous les verbes dans ces versets d'ouverture sont des impératifs qui sont au pluriel. Nous applaudissons le Seigneur, nous l'adorons de manière corporelle ensemble. Notre chant est composé des différentes voix de l'assemblée, c'est ensemble que nous chantons. C'est pour ça qu'en général, la musique la plus adaptée à l'adoration de l'Église a été composée avec cette adoration explicitement à l'esprit. La musique, nous dit un commentateur, la musique jouée lors de concerts de rock ou chantée dans des salons et des bars, même la musique jouée dans des salles de concerts symphoniques, est la musique du monde. Elle est conçue pour être appréciée ou consommée dans des environnements mondains. La musique d'adoration devrait être principalement pour le chant à l'unisson. Sans les notes élevées qui sont appropriées pour les solistes professionnels, cette musique devrait s'adapter au cadre de joie révérentielle qui est exhorté dans ce psaume 100. Et il conclut, l'Église doit accorder plus d'attention à sa musique. Une façon de le faire peut être de passer une commande à des musiciens pour écrire des mélodies appropriées pour le culte public et qui correspondent au texte que les assemblées utilisent pour louer Dieu. Si on devait chercher des mots pour décrire l'adoration à laquelle nous sommes appelés dans ce psaume 100, on utiliserait les mots joyeuse, heureuse, musicale. Mais il y a une description qu'on ne doit pas omettre, c'est l'évangélisation. Vous noterez que le verset 1 s'adresse à tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sont appelés à louer le Seigneur. L'adoration n'est pas le monopole exclusif de l'ancien Israël, mais toujours destiné aux habitants de tous les pays. Le commentateur écrit, Yahvé n'est pas la divinité tribale d'Israël, mais le Dieu souverain sur toute la terre. Lorsque nous nous assemblons pour un culte d'adoration, nous devrions donc désirer non seulement faire nous-mêmes un bruit joyeux, mais que toutes les nations s'unissent à nous dans notre tâche joyeuse. Mais cet aspect évangélisation ne doit pas nous amener à séculariser le culte pour impressionner les personnes du monde qui ne sont pas spirituellement vivantes. Mais cela signifie plutôt que tout le monde devrait non seulement être bienvenu à se joindre à nous dans le culte, mais être spécialement invité, désiré dans l'assemblée où l'évangile est annoncé, où la musique de l'évangile est chantée. Alors même que nous nous réjouissons devant notre Dieu dans l'adoration, nous ne devrions jamais oublier le fardeau de la mission qui a été donnée aux disciples. Comme le dit Spurgeon, le monde ne sera jamais dans sa bonne condition, sauf le jour où en un seul cri unanime, il adore le seul vrai Dieu. Les impératifs de l'adoration. Et qu'est-ce qu'il y a chez le Seigneur qui fait qu'une telle approche positive de l'adoration soit si urgente pour son peuple? Les réponses sont données dans la deuxième strophe, qui dévoile les motivations du peuple de Dieu. C'est le deuxième point. Les motivations de l'adoration. Et en premier lieu, on adore avec joie, avec une joie respectueuse, parce qu'on sait que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Sachez, verset 3, que l'Éternel est Dieu. Le mot « savoir » souligne un point important sur l'approche du croyant dans l'adoration. On adore Dieu, non pas selon nos sentiments, nos besoins ou nos désirs, On l'adore selon ce que l'on sait de lui. Cette connaissance vient principalement de Dieu lui-même dans sa parole. Lorsque l'apôtre Paul a apporté l'évangile à Athènes, elle était attristée que les Athéniens ne connaissaient pas Dieu, qu'ils adoraient des idoles dans l'ignorance. Et il a même trouvé un autel qui était dédié au Dieu inconnu. Lorsqu'il a parlé devant les philosophes, l'apôtre Paul a déclaré en acte 17, verset 23, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Cet accent nous rappelle que l'action de grâce envers Dieu, la louange à Dieu doit être intelligente. Nous devons savoir qui nous remercions. Nous savons qui il est. Et la première chose que nous savons, c'est que le Seigneur, le Dieu de la Bible, est le seul vrai Dieu. D'autres prétendants à la déité sont faux. La terre n'est pas Dieu, pas plus que les arbres ou les rochers. La science n'est pas Dieu, pas plus que le plaisir. Dieu est le Seigneur de la Bible. Et c'est notre privilège de le connaître pour ensuite lui rendre un service joyeux de notre adoration. Et deux choses primordiales que nous savons sur Dieu, y compris qu'il est le Créateur. Verset 3, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Quand on considère les subtilités de la nature humaine avec ses profondeurs d'âme, ses capacités, la capacité de l'esprit, les merveilles du corps humain avec la dextérité de la main ou la merveille de l'œil, on ne peut que glorifier celui qui nous a créés. Et si on élargit notre vision au ciel, à la voûte étoilée, on ne peut que s'incliner devant le Créateur et reconnaître qu'il est grand et tout-puissant. Il a droit à notre service, il a droit à notre obéissance, il a droit à notre adoration. Nous sommes faits pour sa gloire. Et c'est notre privilège d'avoir une relation avec notre Dieu créateur. Il y a une variante textuelle dans ce verset, l'expression « et nous lui appartenons » qui apparaît dans notre version peut aussi être traduite « et non pas nous-mêmes ». Et on lit alors « c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes ». C'est vrai, c'est également vrai, même si la plupart des experts préfèrent lire le verset « et nous lui appartenons ». Mais l'homme moderne essaye de se présenter comme étant auto-fabriqué. Un homme parti de rien, qui adore son créateur, c'est-à-dire lui-même. Le monde aujourd'hui nie Dieu en tant que créateur dans la théorie de l'évolution. Et l'attrait de cette théorie n'est pas simplement l'évidence dont elle tire, mais sa commodité à enlever la place de Dieu dans nos vies. Pourquoi devrions-nous adorer si Dieu ne nous a pas créés? Pourquoi devrions-nous être reconnaissants à quiconque si nous sommes le produit du hasard? Et en suivant cette théorie, on est laissé dans notre orgueil pour ne remercier que nous-mêmes, ayant enlevé Dieu de tout au long dans le but de l'auto-déification. Mais pour le croyant, en plus de connaître Dieu comme notre Créateur, nous nous réjouissons de le connaître comme notre Rédempteur. Et le psalmiste reprend l'imagerie biblique du Sauveur berger au verset 3. « Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Dieu nous a rachetés précisément pour lui-même en nous donnant son propre Fils, ce Fils qui est venu nous donner la vie. Le Seigneur lui-même, rappelez-vous, en Jean chapitre 10, dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un peu plus loin, Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Après nous avoir rachetés de la culpabilité du péché, le Seigneur Jésus nous conduit hors de la puissance du péché. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous pouvons chanter avec David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Connaître Dieu comme notre Rédempteur par son Fils Jésus-Christ est la plus grande de toutes les motivations pour une adoration fervente, joyeuse, une adoration qui est dévouée à lui. Comme le dit un commentateur, personne ne devrait être plus reconnaissant envers Dieu que les brebis dont s'occupe le bon berger. Quelles que soient les épreuves qui nous arrivent dans la vie, chaque croyant trouve ici une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu avec un cœur joyeux. Il est Dieu, il est notre Dieu, il est le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il a fait de nous son propre peuple, créant non seulement la race humaine, mais créant l'Église pour le pâturage de ses brebis. Dire que nous sommes les brebis de son pâturage, c'est reconnaître son amour tendre, plein de compassion pour nous, qui dépasse tous les obstacles à la louange. Est-ce que nous connaissons la prospérité? Alors soyons sûrs de louer le Seigneur avec gratitude. Est-ce que nous luttons dans les épreuves? Est-ce que nous souffrons dans la douleur? Alors élevons nos visages déchirés vers le Seigneur. Adorons celui qui est digne, qui nous a aimés jusqu'à nous sauver, jusqu'à nous réconcilier avec lui-même. Nous sommes son peuple, indépendant de toute autre chose, étant le peuple précieux, le peuple bien-aimé de Dieu, individuellement, en tant que croyants, mais aussi ensemble, en tant que troupeau. Soyons donc motivés, sachant que l'Éternel est Dieu. Soyons motivés pour lui faire monter nos cris joyeux, pour le servir avec joie, pour venir en sa présence en chantant. Tout état de cause, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ça nous emmène au troisième point. Il y a les impératifs de l'adoration, les motivations de l'adoration. Troisième point, les trois caractéristiques particulièrement adorables de Dieu. Le verset 4, comme j'ai dit tout au début, revient sur l'appel du peuple de Dieu à venir dans la présence de Dieu, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. On a le thème général de la louange. Quand les Israélites entraient dans les parvis du temple, ils offraient des agneaux en sacrifice. Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu, ces sacrifices sont terminés. Mais l'offrande, la louange de remerciement continue dans la gratitude qui doit caractériser notre adoration. Spurgeon dit, tant que nous sommes des receveurs de miséricorde, nous devons être des donneurs de remerciements. Célébrez-le, nous dit le psalmiste, bénissez son nom. C'est le désir dans l'adoration de bénir, de donner cette bénédiction, de plaire au cœur de Dieu, de glorifier son nom merveilleux. Et donc la dernière strophe dans le verset 5 souligne trois caractéristiques de Dieu qui sont particulièrement dignes de notre adoration. Pourquoi sommes-nous reconnaissants à vos seigneurs? Pourquoi voulons-nous non seulement une bénédiction pour nous-mêmes, mais aussi pour lui? Tout d'abord, premièrement, parce que l'Éternel est bon. Vous ne pouvez pas dire cela des dieux païens, des idolâtres. Ces idoles n'étaient jamais bonnes, elles étaient plutôt capricieuses. On ne savait jamais comment elles allaient réagir ou dans quelle humeur elles se trouveraient. Mais le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de la Bible, est toujours bon. Quand il a créé la terre, il l'a faite bonne. Les règles de sa loi sont bonnes, sont bienfaisantes. Le commentateur dit, hein, lorsqu'il nous révèle sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Il n'est pas étonnant que le psalmiste s'écrie « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est le psaume 34. Mais Dieu est bon pour le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ a exhorté ses disciples à aimer leurs ennemis pour être les fils de leur Père céleste. Matthieu 5, verset 44. « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On devrait aussi être reconnaissant envers Dieu, parce que ses plans sont bons. Il n'y a pas de plus grande preuve que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'acte le plus mauvais jamais commis. Parce que le Fils parfait de Dieu a été mis à mort alors qu'il était innocent de péché. Il a été mis à mort par des hommes mauvais. Et les plans de Dieu sont si merveilleux qu'il a fait de la pire chose qui puisse arriver, la meilleure chose qui soit jamais arrivée pour son peuple, pour ceux qui croient. La croix a apporté le salut au monde, nous dit un commentateur. Si Dieu a apporté le plus grand bien du plus grand mal, il peut faire sortir le bien de ce qui semble être le mal dans votre propre vie. Tout cela fait partie du bon plan de Dieu. Dieu, l'Éternel, est bon. Nous l'adorons parce qu'il est bon, mais deuxièmement, nous l'adorons parce que sa bonté dure à toujours. Le terme traduit « bonté » ici veut dire « bienveillance »,« fidélité » ou même « amour inébranlable ». Ces idées vont ensemble. L'amour de Dieu a une orientation miséricordieuse pour les pécheurs qui sont dans le besoin. C'est cette bonté, cet amour miséricordieux qui attire notre cœur à louer, à adorer le Seigneur. L'apôtre Jean est allé jusqu'à dire non seulement que Dieu est aimant, mais que Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8. Cela signifie que son amour s'exprime dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. L'amour de Dieu n'est pas abstrait, il s'adresse aux croyants personnellement. L'apôtre Paul a regardé vers la croix où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le péché. Il a trouvé l'assurance de sa propre place dans l'amour de Dieu. Et dans ce qui peut être considéré comme son credo personnel, que Jean-Claude a cité tout à l'heure, l'apôtre Paul écrit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Connaître l'amour de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ était la clé de l'assurance de Paul. Il a pu écrire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans son livre « Connaître Dieu », James Packer va expliquer cela. Il dit non pas seulement certaines choses, notons-le bien, mais toutes choses. Le chrétien sait que chaque événement de sa vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu. Il lui est envoyé pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. Ainsi donc, pour le chrétien, Dieu est toujours et en toutes circonstances amour, amour saint et tout-puissant. Même lorsqu'il est incapable de comprendre pourquoi, le pourquoi et le comment des agissements divins, le chrétien sait qu'ils lui sont dictés par l'amour. Et puisque l'amour inébranlable du Seigneur dure pour toujours, les croyants ont toutes les raisons d'entrer dans ses parvis avec louange, avec action de grâce, d'entrer chaque jour avec la reconnaissance envers Dieu. Troisièmement, le Seigneur est loué pour cet attribut admirable de sa fidélité. Dieu maintient son alliance avec son peuple. Il accomplit chaque promesse qu'il a jamais dite. Sa parole est totalement fiable. Dieu est immuable dans sa volonté, dans ses affections, dans ses jugements. C'est merveilleux d'avoir un roc solide sur lequel se tenir, à savoir la fidélité de Dieu. Sa parole qui est digne de confiance. Spurgeon dit, comme nos pères l'ont trouvé fidèle, nos fils aussi, leur descendance, le pour toujours, notre cœur bondit de joie lorsque nous nous inclinons devant celui qui n'a jamais brisé sa parole ou changé son dessein. Dans l'histoire de la rédemption, le patriarche Jacob, quand il était jeune, a été forcé de fuir sa maison. Il a dormi un soir sur le sol, sa tête posée sur une pierre. Et là, le Seigneur est venu à lui dans un rêve, avec des promesses de bénédiction. Genèse 28, verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Jacob a répondu en s'engageant à être un disciple du Seigneur. Il a nommé cet endroit Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Bien des années plus tard, à la fin de sa vie, Dieu a convoqué Jacob à revenir à Bethel pour dire comment il avait accompli les promesses qu'il lui avait données. Et Jacob répond à l'appel en Genèse 35, verset 3. Il dit à sa famille, « Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, et là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Et Jacob disait à la fin de sa vie que Dieu lui avait été fidèle, qu'il a gardé toutes les merveilleuses promesses. Dieu avait promis qu'il serait avec Jacob. Et Jacob maintenant confesse que Dieu a bien été avec lui. Le Seigneur avait promis de le ramener à la terre de la promesse. Et Jacob loue le Seigneur parce qu'effectivement, il était bien revenu. Et là, à Bethel, le Seigneur est apparu à Jacob une fois de plus, confirmant à nouveau son alliance. Et Jacob a répondu de la façon dont on devrait nous répondre au Seigneur, la façon dont on passera l'éternité dans la louange quand la fidélité de Dieu nous aura ramenés à la maison. Genèse 35, verset 14, « Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Jacob disait, « Merci Seigneur, merci d'être fidèle. » Et puisque le Seigneur est fidèle de génération en génération, nous pouvons maintenant l'adorer avec louange, avec action de grâce, en tant que Dieu fidèle, ce Dieu que nous connaissons, ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous servons. Et pour conclure, nous avons ici aussi une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que ce centième psaume ait remué le cœur de beaucoup de croyants. On est émus. On peut revendiquer personnellement cette réalité. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Mais dans son commentaire, Martin Luther écrit « Ce psaume est une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. » Il appelle tous les croyants de la terre à se réjouir, à triompher, à rendre grâce, à entrer dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis et son sanctuaire avec louange. Parce que par l'évangile et la prédication de la rémission des péchés, ce royaume de Jésus-Christ est établi et renforcé et restera à jamais. Comment entrons-nous par les portes de la bénédiction de Dieu? Nous entrons par cette porte qui a été ouverte pour nous, par le Seigneur Jésus-Christ et sa mort expiatoire sur la croix. Et le Dieu du psaume 100 devient notre Dieu. Nous nous réjouissons d'être son peuple par le bon berger, le Fils de Dieu lui-même. Dans ce psaume, c'est le Seigneur Jésus qui nous appelle à lui. En Jean 10, il dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Alors que pouvons-nous répondre à cela? Comme Jacob, on peut dire merci. Merci en entrant dans ces portes avec une louange, avec une réjouissance, nous réjouissant que le Seigneur est bon, que son amour inébranlable dure pour toujours, qu'il est fidèle, qu'il tient ses promesses, que sa parole est inchangée, qu'il gardera tout ce qu'il a dit. Oui, louons le Seigneur, soyons reconnaissants pour qui il est, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait. Soyons reconnaissants qu'il gardera sa parole. Il est bon, il est plein d'amour, il est fidèle de génération en génération. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il fasse monter en nous une reconnaissance, une louange toujours plus grande pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.